à Avignon, le candidat du Front National, Philippe Lethiot, est arrivé en tête au premier tour des élections municipales. Si demain, il devient maire de la ville, Olivier Py, nouveau patron du festival de théâtre créé par Jean Villard, a annoncé avec fracas qu'il piloterait cette année une édition de Résistance, puis qu'il allait sans doute démissionner. Il a dit aussi qu'il verrait bien délocaliser le festival. D'autres acteurs culturels ont déclaré quant à eux qu'ils resteraient pour se battre. Résistance, rupture, combat, ce vocabulaire épique et ces poses martiales me rappellent invinciblement mes jeunes années gauchistes. Pour reprendre les mots de Régis Debray dans « Loué soit nos seigneurs », j'appartiens à une génération de série B condamnée par un blanc de l'histoire au pastiche des destins hors série qui nous ont précédés. À d'autres, l'appel du 18 juin, Churchill aux communes, Stalingrad, Buchenwald, Varsovie. Et Régis Debray continue. Si l'on peut comparer l'historiographie à la cinéphilie, les tragédies du siècle, nous n'aurons finalement connu ni la VO en noir et blanc, ni le remake doublé en couleur, mais le sketch de circonstance pour salle polyvalente municipale. Ça tombe bien. Entre attendrissement et agacement, l'adolescence prolongée au-delà de toute actualité des résistants de pacotille que sont Olivier Py et l'immense peuple des cultureux prête donc à sourire. Toutefois, le sourire se fige quand on pense que ce n'est pas seulement le grand journal de Canal+, mais toute la doxa savante en France qui appuie ou qui légitime leur comportement. Que nous répète en effet la grande majorité des sociologues, des politologues, des historiens du XXe siècle et des éditorialistes à chaque sondage témoignant du sentiment d'insécurité croissant des Français et de la montée de l'idée qu'il y a trop d'immigrés dans nos pays. Ils nous disent gravement que l'histoire bégaye, que notre époque a déjà eu lieu, et ils mettent en parallèle le populisme et la xénophobie actuelle avec le climat délétère ou nauséabond des années 30. L'élément fédérateur de la nouvelle extrême droite, écrit par exemple Enzo Traverso, réside dans le racisme, c'est-à-dire le rejet violent des immigrés. Dans l'Europe contemporaine, écrit Traverso, le migrant prend essentiellement les traits du musulman. L'islamophobie joue pour le nouveau racisme le rôle qui fut celui de l'antisémitisme. Le portrait de l'arabe musulman ne diffère pas beaucoup de celui du juif construit par l'antisémitisme au début du XXe siècle. Dans les deux cas, les pratiques religieuses, culturelles, vestimentaires et alimentaires d'une minorité sont mobilisées afin de construire le stéréotype négatif d'un corps étranger et insaisissable d'un corps étranger et inassimilable à la communauté nationale. Dans son livre « La société des égaux », Pierre Rosanvallo, qui n'appartient pas, lui, comme Traverso, à la gauche radicale, mais plutôt à la gauche institutionnelle, Pierre Rosanvallo part carrément d'un retour au XIXe siècle. Il remonte un peu plus haut que les années 30, vers les années 1890, ces années où Maurice Barrès réunissait trois articles publiés dans le Figaro sous ce titre sans équivoque « Contre les étrangers ». À un siècle de distance, je cite Rosan Vallon, « la figure du national-protectionnisme et de la xénophobie ont ressurgi et pris une forme inquiétante. L'idée de nation a également refait surface avec force, comme au temps de Barrès. Elle n'est pas brandie pour donner un corps socialement plus consistant au peuple introuvable de la démocratie électorale, mais elle est au contraire exaltée pour exorciser les difficultés de la construction pratique d'une société des semblables. Elle sert encore une fois à penser le commun d'une façon simplifiée comme unité négative, homogénéité présupposée évidente. Tout cela, conclut Rosan Vallon, a un furieux air de déjà-vu. Donc, les artistes avec Olivier Py, qui veulent se donner le beau rôle, mais il faut bien reconnaître que ce sont des intellectuels qui ont écrit leur partition et qui assurent aujourd'hui à Adolf Hitler, parce qu'au bout du compte, tout ça mène à lui, une extraordinaire carrière posthume. François Furet a bien montré dans le passé d'une illusion que c'est l'antifascisme qui a fait le rayonnement du communisme dans l'après-guerre. Les communistes n'ont plus voulu, dit François Furet, d'autres territoires politiques à leur action que cet espace à deux dimensions, ou plutôt à deux pôles, dont l'un est figuré par les fascistes et l'autre par eux-mêmes. Le communisme est mort, mais pas l'antifascisme, qui a trouvé au contraire une nouvelle jeunesse et un public encore élargi avec la question de l'immigration. Prolongé en antiracisme, l'antifascisme post-fasciste est plus vivant que jamais. On peut le comprendre. L'autre ayant été sous les traits du juif et du colonisé, le grand martyr de l'Europe de la première moitié du XXe siècle, il est devenu, dans les dernières décennies, son idole philosophique, morale et politique. L'ennemi que cette Europe se reconnaît et qu'elle aspire à combattre, c'est avant tout l'ennemi de l'autre. Et quand l'autre lui-même ou certains de ses représentants se montrent inamical, voire belliqueux, le premier penchant des penseurs de cette Europe, c'est de nier cette hostilité, et le second, dès lors que le déni s'avère intenable, que certains bénéficiaires, si vous voulez, de l'altérité se déchaînent contre ceux que l'antiracisme officiel considère comme leurs compagnons d'altérité, eh bien, la pensée dominante recherche la cause de ces comportements dans l'oppression, l'exclusion, les humiliations et les discriminations infligées précisément à l'autre. Des professeurs de lettres ont dévoilé il y a 10 ans une part de la réalité quotidienne, de leur réalité quotidienne et de la réalité quotidienne plus généralement, dans ce qu'ils ont très justement appelé les territoires perdus de la République. Et lors d'un colloque organisé 10 ans après la parution de cet accablant recueil, ils ont dit que les choses n'avaient fait qu'empirer. Les choses, c'est-à-dire l'antisémitisme, le sexisme et la francophobie. Mais on ne peut pas dire que la foule se pressait à ce colloque. Et quand Pierre-Rosan Vallon crée une collection intitulée « Le Parlement des Invisibles », ce n'est pas pour sortir de l'anonymat et de l'abandon la parole de ceux qui sont exposés sans repère possible à cette réalité sans précédent, c'est pour la recouvrir encore davantage. Elle ne doit pas avoir place dans le récit collectif que le projet des récits de vie s'efforce de constituer. Elle doit au contraire être rendue tout à fait inaudible, car, dit le promoteur de ce projet, du Parlement des Invisibles, c'est une société en mal de représentation et de narration qui cherche des boucs émissaires, qui choisit des boucs émissaires et qui tente à ne plus pouvoir s'appréhender que sous les espèces d'une communauté en but à la pression maléfique venant des étrangers. En décembre 2005, voilà, donc j'ai fini ma citation. En décembre 2005, à la suite des émeutes qui avaient embrasé les banlieues, une journaliste du Monde, Marion Van Rentergem, s'est rendue à la cité des 4000 à La Courneuve. Elle y a rencontré Christine C., une petite dame élégante, avec des yeux très bleus, la quarantaine passée, qui est lasse de la vie, et qui, aujourd'hui, limite ses sorties au minimum nécessaire. Elle a tout fait, elle a été caissière, femme de ménage, distributrice de prospectus, repasseuse. Aujourd'hui, elle dit en avoir assez de ne parler à personne, de croiser des femmes voilées qui ne la regardent pas, d'entendre le Coran à fond des cassettes, d'être regardée d'un drôle d'air, si elle fume pendant le ramadan. Avant, elle allait boire le thé chez sa voisine algérienne. Maintenant, dit-elle, je me sens carrément isolée. Je suis une toute petite minorité. C'est difficile d'être une minorité chez soi, vous savez. Aucun responsable politique, aucun sociologue ne s'est saisi de ce témoignage. Et le Parlement des Invisibles, j'y reviens, est tout spécialement conçu pour le réduire définitivement au silence. Je l'avais lu à l'époque, en 2005, et j'avais été bouleversé. Mais je l'ai relu tout récemment. Il m'est revenu en mémoire parce que je l'ai relu, cité dans « Le samouraï d'Occident ». Peut-être ce livre vous dit-il quelque chose. C'est le testament spirituel de Dominique Vénère, ancien militant d'extrême droite, qui s'est suicidé spectaculairement, on le sait, à Notre-Dame. Seul, il a recueilli le désarroi et le tourment de Christine C., qui, dès lors, se trouve contaminée par son hôte. Dominique Vénère, compromet, discrédite, enfonce encore la petite dame de la cité des 4000. Quand en vérité, la question est, pourquoi lui, et seulement lui, pourquoi est-ce Dominique Vénère qui lui a donné en quelque sorte asile? Pourquoi tout le monde lui a-t-il claqué la porte au nez? Et comme c'est lui, c'est une occasion supplémentaire pour l'antifascisme de la doxa, de donner un nouveau tour de vis, si j'ose dire, à l'occultation du monde réel. Une civilisation qui oublie son passé est condamnée à le revivre. J'ai souvent entendu cette phrase, et il m'est sans doute même arrivé de la répéter. Mais je dois maintenant constater que la mémoire envahissante conduit notre civilisation à passer à côté d'elle-même et à oublier son présent. Elle prend même le refus ou la simple tristesse de disparaître pour une résurgence des vieux démons. La mélancolie tend à devenir réactionnaire. Mais qu'est-ce que le progressiste contemporain, sinon un incorrigible retardataire ? Il croit conduire la locomotive de l'histoire alors même qu'il a raté son train. Et je comprends maintenant toute la pertinence et toute la profondeur de cette phrase de Peggy dans la note conjointe, cette phrase qui a l'air d'une tautologie, se mettre en avance, se mettre en retard, quelles inexactitudes, être à l'heure, la seule exactitude. Voilà,
j'ai fini. Merci, Alain Finkielkraut.